Bonsoir à toutes et à tous. Quand la souffrance interroge, Dieu répond par l'espérance. Nous sommes au sixième jour de notre neuvaine de prière pour les malades. Hier, nous avons parcouru l'ancienne alliance pour chercher à comprendre l'origine du mystère de la souffrance. Partant de la chute originelle dans la Genèse jusqu'aux grandes figures bibliques, l'Écriture sainte nous a progressivement révélé comment la souffrance entre dans l'histoire humaine, se propage dans le cœur de l'homme et devient le lieu d'une interrogation radicale sur Dieu, sur l'homme, sur le salut. Nous avons vu comment la rupture avec Dieu introduit dans l'humanité la souffrance sous toutes ses formes, douleur, pénibilité dans le labeur, mort, mais aussi violence et division, comme le révèle le meurtre fratricide d'Abel et de Caïn. Nous avons ensuite approfondi l'énigme de la souffrance de l'innocent à travers le livre de Job, qui remet radicalement en question toute logique simpliste d'une rétribution automatique entre faute et malheur. La souffrance devient alors le lieu d'un combat intérieur, d'une purification, d'un dépouillement des fausses images de Dieu. Plus encore, elle devient parfois le lieu d'une rencontre plus profonde avec lui. Enfin, avec les chants du serviteur souffrant d'Isaïe, eh bien, ils nous ont ouvert une perspective nouvelle et prophétique. La souffrance du juste peut devenir substitutive, porteuse de salut pour les autres. Le serviteur porte les fautes de son peuple. Par ses blessures, les autres sont guéris. La souffrance cesse alors d'être seulement subie. Elle devient mystérieusement offerte, assumée dans l'amour. Au cœur de cet itinéraire, une lumière précieuse s'est dégagée. La souffrance, comme conséquence de la liberté blessée par le péché, peut revêtir une dimension de remède, comme si l'homme ne souffrait pas. Prendrait-il conscience de la rupture originelle? Car si l'homme ne souffrait pas, prendrait-il conscience de la rupture originelle avec Dieu? Percevrait-il qu'il a perdu la plénitude de sa liberté qui s'origine en Dieu? Éprouverait-il le besoin vital d'un chemin de guérison pour la retrouver? La révélation divine dévoile l'ampleur des conséquences de la chute et agit comme une lumière qui permet à l'homme de prendre conscience de sa blessure. Or, cette prise de conscience, son expression et sa mise en parole constitue déjà un premier mouvement de guérison. Ainsi, la révélation éclaire le travail intérieur par lequel l'homme est progressivement conduit vers la restauration de sa relation à Dieu, à lui-même et à autrui. Aujourd'hui, nous entrons dans la nouvelle alliance avec ce que nous en dit le Nouveau Testament, où tout s'accomplit en Jésus-Christ. Nous le savons, Jésus ne vient pas abolir l'Écriture, mais l'accomplir dans sa plénitude. En lui, toutes les figures prophétiques et personnages de l'Ancienne Alliance convergent et trouvent leur sens ultime. Comme Abel, il est tué par jalousie. Comme Job, il souffre injustement alors qu'il est sans péché. Comme le serviteur d'Isaïe, il porte la souffrance des autres et fait de sa passion une offrande rédemptrice. Toute l'ancienne alliance tend vers Jésus et trouve en lui son accomplissement. En sa personne se révèle pleinement cette mystérieuse logique du remède. La souffrance, assumée par amour, y est transfigurée en chemin de vie, de guérison et de salut. Ce qui frappe d'abord dans l'Évangile, c'est que l'attitude première de Jésus face à la souffrance des hommes est la compassion, ou plus profondément encore, l'empathie. Il se laisse intérieurement toucher par la détresse humaine et entre en quelque sorte dans la souffrance de ceux qu'il rencontre. Jésus se laisse profondément toucher par la souffrance des hommes. Il guérit les malades, console les affligés, relève les pécheurs. Devant la douleur humaine, il n'est jamais indifférent. Il se trouble intérieurement et pleure lui-même au tombeau de Lazare. Les récits évangéliques de guérison sont innombrables. Jésus guérit les foules non seulement pour restaurer l'intégrité physique, mais plus profondément pour réconcilier l'homme avec Dieu et guérir la relation blessée par le péché. Fils, tes péchés sont remis. Va, désormais ne pêche plus. Ainsi, à travers son action, des foules entières sont comme recréées. Dans sa compassion, dans son empathie envers l'humanité blessée, la souffrance de Jésus ne se limite pas aux heures de la passion. Toute son existence est traversée par la confrontation quotidienne au mal et aux conséquences du péché. La fatigue, la faim, la soif, la misère des foules, leur errance, la mauvaise foi, l'infidélité, l'hostilité de ses adversaires, jusqu'à l'incompréhension même de ses disciples. Il porte intérieurement la détresse humaine et en éprouve le poids au plus profond de lui-même, au point de pleurer sur Jérusalem. Cette confrontation au mal doit toutefois être bien comprise. Comme nous l'avons rappelé dès le premier jour, le mal ne désigne pas d'abord une réalité créée en elle-même, opposée symétriquement au bien. Dans la tradition chrétienne et hébraïque, il est compris comme un déficit de bien, une privation d'une perfection qui devrait être présente. Nous citions saint Thomas d'Aquin qui définit comme une privatio boni, une privation d'un bien dû. La souffrance qui en découle n'est pas étrangère au mal. Elle en est la manifestation existentielle, le symptôme et parfois même le cri. Elle révèle qu'une harmonie fondamentale a été blessée, qu'un bien manque désormais à l'être humain dans sa relation à Dieu, à lui-même, aux autres et à la création. Ainsi, la souffrance n'apparaît pas comme une fatalité opposée symétriquement à l'amour. Elle manifeste plutôt une désarticulation intérieure de l'homme et d'un monde marqué par la rupture du péché. Dans cette perspective, les évangiles nous offrent une lumière nouvelle. Jésus, homme sans péché, assume pourtant en lui les conséquences du péché du monde, sans jamais y être complice ni s'y soustraire. Sa passion révèle alors jusqu'au bout ce que signifie entrer dans un monde blessé. Elle culmine dans l'agonie, le trouble intérieur, la sueur du sang et la prière du jardin des oliviers. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. La souffrance demeure bien ce qu'elle est, une réalité éprouvante à laquelle la nature humaine répugne spontanément. Pourtant, Jésus entre librement dans ce mystère. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et, après 3 jours, ressusciter. Mais la souffrance de Jésus et la volonté du Père ne doivent jamais être comprises selon une logique de courroux à apaiser. Le Père n'a pas voulu d'abord la souffrance du Fils, mais l'envoi du Fils pour ramener l'humanité à lui. Cette offrande totale se réalise dans des conditions dramatiques à cause du péché des hommes. Et Jésus reste dans l'obéissance filiale. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et la tentation qu'il aura à vivre au désert portera justement sur d'autres moyens possibles pour séduire l'humanité. Comment Satan peut-il tenter cet homme, Jésus, de la même manière qu'il a tenté Adam et Ève au jardin d'Éden? Pour tenter, il faut embrouiller l'esprit, mettre en défaut la clarté de la connaissance et faire désirer une chose mauvaise. C'est ce que le diable va essayer de faire avec ce qu'il est et ce qu'il gouverne. Ainsi, en refusant les voies de la séduction et de la puissance que lui proposait Satan, Jésus choisit librement le chemin de l'obéissance filiale jusqu'au bout. C'est précisément dans ce contexte que se révèle la double dimension de la croix. Vue du côté de l'homme, elle demeure obscure et scandaleuse. Elle manifeste la souffrance du juste, l'apparente défaite, et rejoint ce que dit l'apôtre Paul: nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, vue du côté de Dieu, elle est source de vie, lieu où s'accomplit le don total de l'amour. Chacun est appelé à entrer dans son propre chemin pascal. Suivre le Christ, ce n'est pas d'abord choisir de souffrir, mais choisir d'aimer. Or, l'amour, plongé dans un monde marqué par le péché, rencontre inévitablement l'opposition et engendre la souffrance. Dans sa passion, Jésus éprouve cette réalité jusque dans sa profondeur. Maintenant, mon âme est troublée. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Sa sueur devient comme des gouttes de sang tombant à terre. La souffrance demeure ce qu'elle est, une épreuve que la nature humaine repousse. Le combat du Christ, Jésus, ne consiste pas à nier cette répulsion, mais à consentir dans l'amour à traverser ce mystère. Car il y a une différence entre supporter dignement la souffrance et entrer librement dans le mystère qu'elle recèle lorsqu'elle est vécue dans l'union à Dieu. Jésus refuse tout lien direct entre souffrance et péché personnel. Aux Galiléens, massacrés, comme aux victimes de la tour de Siloué, il affirme qu'il n'était pas plus coupable que les autres. S'il ne donne pas de réponse claire quant au pourquoi de tels événements, en revanche, il les utilise pour tourner les hommes vers Dieu. Est-ce cela, de fait, le sens caché, le but poursuivi par Dieu quand il laisse le mal, le péché, la souffrance se manifester? Dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, ce principe est également affirmé. Sur terre, le pauvre reste pauvre, et le riche pourrait passer pour béni, car rien, apparemment, ne vient l'éprouver de son vivant. Il faut attendre la mort pour que la justice soit manifestée. À propos de l'aveugle-né, il déclare « Ni lui, ni ses parents n'ont péché ». La mort de Lazare elle-même n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. La parabole de l'ivraie et du bon grain révèle la patience mystérieuse de Dieu face au mal. Jésus montre en effet que Dieu ne détruit pas immédiatement l'ivraie semée par l'ennemi, de peur d'arracher en même temps le bon grain. Il importe cependant de bien comprendre le sens de cette image. Le mal ne réside pas dans l'ivraie, comme si elle était une substance mauvaise en elle-même. Ce qui est mauvais, c'est l'intention de l'ennemi qui mêle délibérément aux semences fécondes des graines stériles, incapables de produire du pain. Il s'agit, d'une certaine manière, d'une compétition entre deux types de paroles, celle qui nourrit et fait vivre, et celle qui encombre, stérilise et disperse. Le mal apparaît ainsi comme un mélange corrupteur, une altération de la bonne semence. Dans ce contexte, la souffrance consiste à supporter au sein même du champ cette présence encombrante de l'ivraie. L'impureté, les vanités, les concurrences stériles qui pèsent sur la croissance du bon grain. Pourtant, cette cohabitation n'est pas voulue positivement par Dieu. Elle n'est que permise dans sa patience divine. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. À la moisson, le discernement devient possible, car les fruits révèlent la vraie nature de chaque plante. Le blé est livré. Ce temps d'attente n'est donc pas un abandon, mais un délai de miséricorde qui permet au bon grain d'arriver à maturité. Et nous savons par la foi que Dieu fait concourir au bien de ceux qui l'aiment. L'enseignement de Jésus sur le bon grain et l'ivraie nous conduit au cœur même du mystère de l'imbrication du bien et du mal, et donc de la souffrance qui fait gémir ce monde. Face à l'étonnement des serviteurs, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Jésus répond sans ambiguïté, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Par cette parole, il écarte définitivement l'idée que Dieu serait à l'origine de ce mélange que l'on nomme mal. Le mal n'est pas une réalité substantielle co-créée par Dieu avec le bien. Il apparaît plutôt comme un déficit du bien et ne constitue en aucun cas une part nécessaire de la création. Il est l'œuvre d'un ennemi, d'une liberté créée qui s'est rebellée contre le Créateur. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il en est la victime première dans le Christ Jésus. Pourtant, Jésus ne condamne pas, ne commande pas d'arracher aussitôt l'ivraie. Il répond : non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Cette patience divine est au cœur du mystère du mal. Dieu permet le mal, déficit de bien, il ne le veut pas positivement, par respect pour la liberté qu'il a lui-même donnée à ses créatures. Arracher, prématurément livré, risquerait de détruire ce qui, dans le champ, porte encore en germe une possible conversion, c'est-à-dire le grain de blé porteur d'une bonne parole à assimiler sous forme de pain. Le discernement définitif entre le bon grain et l'ivraie n'appartient pas à l'homme. Il relève de la moisson finale confiée aux anges. Ainsi, la présence du mal et de la souffrance qu'il engendre n'est pas un échec du dessein de Dieu, mais un élément intégré dans son économie de salut. Le mal mélange et l'intention de l'ennemi sont permis pour que le bien puisse croître jusqu'à sa pleine maturité. Ce retard apparent de la justice est en réalité un temps de surcroît de miséricorde, un temps de grâce supplémentaire offert à l'humanité pour qu'elle se convertisse. Ce retard joue en faveur du royaume, à la fois extensivement, plus d'âmes peuvent être sauvées, et intensivement, la conversion peut devenir plus profonde, plus libre. La souffrance qui naît de cette cohabitation du bien et de ce qui n'est pas bon n'est donc pas absurde. Elle devient le lieu où se joue dans l'histoire la patience de Dieu qui attend l'adhésion libre de l'homme. Jésus lui-même a vécu jusqu'au bout cette logique de la patience divine. Il a gardé Judas parmi les 12, bien qu'il connût sa trahison, et il a repris Pierre qui, refusant l'idée d'un Messie souffrant, s'était fait le porte-parole de Satan. Il n'a pas cherché à éliminer le mal, cette méchanceté faite de cupidité, d'erreur de pensée et de trahison par la force ou la violence. Au contraire, il a assumé pleinement jusqu'à la croix. Ces miracles, signes prophétiques de la victoire finale, manifestent clairement qu'il ne se résigne jamais au mal. Il le combat activement, comme lorsqu'il chasse les démons, cite l'Écriture avec autorité ou expulse les vendeurs du temple à coups de fouet. Cependant, son combat prend une forme originale et paradoxale. Il enseigne à tendre l'autre joue, à ne pas résister aux méchants, et proclame même bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Bien qu'il ait multiplié des guérisons, il n'abolit pas d'un seul coup toute souffrance. Il nous invite plutôt à devenir ses coopérateurs dans le champ du Père, en prenant sur nous son propre joug. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » La parabole du bon samaritain achève cette révélation. La souffrance du prochain doit éveiller en nous une charité active, concrète, sans moyens grandioses, comme le rappelle saint Jean-Paul II dans Salvici Doloris. Je le cite : la révélation par le Christ du sens salvifique de la souffrance ne s'identifie nullement à une attitude de passivité. C'est tout le contraire. L'Évangile est la négation de la passivité en face de la souffrance. Je répète, l'Évangile est la négation de la passivité en face de la souffrance. Le Christ lui-même, en ce domaine, est essentiellement actif. Il passe en faisant le bien. Vous retrouverez cela, cette citation au numéro 30 de cette lettre apostolique. Ainsi, la souffrance qui fait gémir le monde n'est ni niée ni glorifiée pour elle-même. Elle est le lieu où se déploie le mystère d'un Dieu qui respecte la liberté jusqu'à en souffrir et qui, dans le Christ, la transfigure en voie de salut. Le mal est permis, la souffrance est assumée, le royaume advient. Et c'est précisément dans cette tension entre permission divine et victoire finale que la souffrance trouve non pas une explication totale, mais un sens rédempteur à travers l'histoire du salut. Aux disciples, Jésus promet persécution et croix. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La purification est nécessaire. Tout sarment en moi qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. L'image de la femme en travail d'enfantement montre que la souffrance débouche toujours sur la joie. Marie, paradigme du disciple, accumule les souffrances et complète en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Pierre illustre le chemin du disciple, du triple reniement à la conversion totale. La souffrance du disciple n'est pas d'abord choisie pour elle-même. Elle est acceptée pour le royaume, purifiée, fécondée et devient participation à la mission rédemptrice du Christ. C'est dans cette lumière que certains saints ont cherché à entrer plus profondément dans le mystère du Christ, non en expliquant la souffrance, mais en s'unissant à celui qui l'a portée. Parmi eux, petite Thérèse offre un témoignage particulièrement éclairant. Pour elle, toute la vie spirituelle consiste à s'identifier à son bien-aimé Jésus. Elle ne cherche pas d'abord à comprendre la souffrance, mais à aimer comme lui. Et pour cela, elle se tourne sans cesse vers l'Évangile, qu'elle médite chaque jour, surtout dans l'oraison. Là, elle découvre non seulement des vérités sur Jésus, mais Jésus lui-même, présent et vivant. Thérèse disait : « Pour moi, je ne trouve plus rien dans les livres, si ce n'est dans l'Évangile. Ce livre-là me suffit. » On comprend alors que dans une de ses poésies, elle dit à Jésus « Montre-moi les secrets cachés dans l'Évangile. Ah, que ce livre d'or est mon plus cher trésor !» L'Évangile devient ainsi son plus cher trésor, le lieu où elle apprend à connaître toujours davantage le cœur du Christ afin de mieux l'aimer et de se laisser aimer par lui. Peu à peu, cette fréquentation quotidienne de la parole transforme toute sa vie. Elle entre dans une relation vivante avec le Christ, au point que l'Évangile n'est plus seulement une révélation, mais une présence. Il me semble que la parole de Jésus, dira Thérèse, c'est lui-même. Lui, Jésus, le Verbe, la parole de Dieu, écrivait-elle le 7 juillet 1894. Elle en vient, d'une certaine manière, à habiter l'Évangile, jusqu'à le vivre concrètement dans son existence et à se laisser configurer intérieurement au Christ, à vivre de ses sentiments. Son désir d'union la conduit alors à accueillir la souffrance comme un lieu de communion avec Jésus. Ainsi, à la suite de Thérèse, nous comprenons que la lumière du Christ Jésus sur la souffrance se reçoit par une relation vivante nourrie de l'Évangile. Méditer chaque jour la vie de Jésus nous apprend à regarder la souffrance avec ses yeux, à l'aimer dans son propre amour et à la laisser devenir, elle aussi, un chemin d'union. Nous entrons alors mystérieusement dans cette circulation d'amour où chacun, en Christ, peut porter les autres et être porté par eux. En effet, l'amour, comme le bien, est par essence diffusif de soi. Saint Thomas d'Aquin l'exprime magnifiquement. Bonum diffusivum sui. Le bien est diffusif de soi. Amen.